BW. Droits et libertés.
Pour la 18e semaine consécutive, des manifestations continuent de rassembler des dizaines de milliers de personnes en Algérie. Les contestataires réclament que soient jugés les hauts dignitaires du régime Bouteflika et que la transition se fasse dans la paix, au profit des civils et non de l'armée. Mais pour commencer, nous irons faire un tour au Maroc, où sévit une véritable mafia des sables. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Mohammedia est une ville portuaire marocaine de la côte atlantique qui compte environ 200 000 habitants. Elle abrite la plus grande raffinerie du pays. Des campings, des hôtels, des plages attirent de nombreux touristes. D'après le ministère marocain du tourisme, le nombre d'arrivées d'estivants dans le pays a augmenté de 18% en juin 2018 par rapport à la même période de l'année précédente. Avec toutes ces demandes d'infrastructures, de logements saisonniers, le secteur de la construction se porte bien au Maroc, trop bien même. À telle enseigne que ça en devient une plaie pour les habitants et un cauchemar pour les défenseurs de l'environnement. Sur la plage de Monica, à Mohammedia, une seule dune a échappé aux appétits des promoteurs. Et ici, comme dans de nombreux autres endroits du Maroc, de grandes quantités de sable ont été volées pour alimenter le secteur de la construction. Un récent rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, parle même de mafia du sable qui détruisent le littoral marocain en surexploitant ses ressources et en bétonnant la côte à tout va. Afous Adnan, militant écologiste au sein de l'ANPEL, une ONG de Mohammedia qui se consacre à la protection du littoral, craint que si ça continue à ce rythme, il n'y ait bientôt plus de cailloux.
On consomme aujourd'hui plus de 32 millions de mètres cubes de sable. Fin. Ce qui est déclaré, c'est moins de 16 millions de mètres cubes. C'est-à-dire 16 millions de mètres cubes vient de sources inconnues.
D'après le PNUE, plus de la moitié du sable consommé chaque année par l'industrie de la construction au Maroc, environ 10 millions de mètres cubes ou 350 millions de pieds cubes, est extrait illégalement. Le sable représente les 4/5 de la composition du béton et après l'eau, il est désormais la deuxième ressource la plus consommée au monde. Les plages et les rivières sont donc l'objet de nombreuses convoitises. Jawad Hadi, secrétaire général de l'association ANPEL, voit le paysage changer à vue d'œil.
La mafia pille l'héritage culturel de tout notre pays. Il a fallu des années et des années d'évolution au Maroc pour se constituer. Voilà qu'on nous vole tout ce sable et nos plages avec la complicité de certains responsables politiques.
Tout le long de la côte marocaine, le PNUE a relevé la disparition de nombreuses plages à cause de ces pillages. Les pillards arrivent au milieu de la nuit, surtout en basse saison. C'est ce que raconte un habitant du front de mer.
Après notre inspection des plages de la région, notamment à Mohammedia, on a remarqué que certaines plages avaient été transformées en étendues rocheuses parce que le sable se raréfie.
Or, qui dit réduction des plages, dit aussi érosion côtière plus rapide. En théorie, le vol de sable sur les plages ou les dunes du Maroc est punissable de 5 ans de prison. Mais Afous Adnan dénonce un réseau de corruption de grande ampleur. Des officiers de l'armée à la retraite, des responsables politiques donnent des permis aux entrepreneurs pour surexploiter les gisements sans s'encombrer de respecter les quotas en vigueur.
C'est un marché qui est justement qui profite aux notables des régions, en l'occurrence Souria, Souira, Asfi, Jdida, Azmoun. Azmoun, c'est un cas catastrophique, il faut aller voir sur place. L'environnement, l'écosystème, il est chaotique là-bas.
Plusieurs militants de la société civile, mais aussi des opérateurs du secteur, parlent sous couvert d'anonymat d'une mafia très organisée qui ne paie pas d'impôts. En plus, elle revend le sable ni lavé ni dessalé et ne respecte pas la réglementation de base en matière de construction. Le Maroc se veut pourtant le héros de la protection de l'environnement, dont les autorités ont fait l'une de leurs priorités. En 2016, le pays a même accueilli la Conférence internationale sur le climat de l'ONU, la COP22. Mais il suffit de regarder sur des sites de visualisation d'images satellites pour constater l'ampleur des dégâts sur le littoral marocain. Des kilomètres de forêts côtières ont été rasés, les dunes ont largement disparu dans de nombreux endroits pour exploiter le sable illégalement sur des hectares et des hectares. Les autorités assurent qu'un plan national de protection des côtes serait en cours de validation qui instaurera de nouveaux mécanismes d'évaluation.
De grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur.
Les jeunes Algériens ne lâchent rien. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour du côté de l'Algérie pour voir comment se porte la contestation et leur donner la parole, tout simplement, comme à Imad, étudiant à Alger.
Le mardi, on sort toujours en tant qu'étudiant pour revendiquer le changement radical et profond du système. On sort toujours, on nous demande pourquoi on sort toujours, parce qu'on n'a pas répondu à nos revendications qui sont pour le changement.
Et cette professeure d'université soutient elle aussi la mobilisation inlassable des jeunes dans les rues de la capitale.
La jeunesse a été très calme pendant un certain temps, donc on s'est dit ce n'est plus leur problème l'Algérie, ce n'est pas du tout leur souci, donc ils vivotent. Ce mouvement-là, je pense que personne ne peut résister à le suivre, à le soutenir, à être parmi ces jeunes. Ça donne du baume au cœur, personnellement. Enfin, ça fait du bien. Ça fait du bien pour l'Algérie. Ça fait du bien.
Sarah, une étudiante, explique pourquoi la mobilisation continue malgré le départ du vieux président Bouteflika.
C'est vrai qu'il n'y a plus de Bouteflika, il n'y a plus certains qui sont jugés, mais on ne demande pas la justice. Ce n'est pas le temps pour ça. On doit d'abord libérer la justice pour juger les gens, voilà. Et pas de négociation avec le militaire, le militaire, leur place est dans la caserne et non pas dans la cour politique, voilà.
Il faut d'abord assainir la justice avant de pouvoir juger les anciens hauts dignitaires du régime Bouteflika, dit Sarah, et remettre le pouvoir entre les mains des civils. L'ancien patron des patrons, deux ex-premiers ministres, plusieurs ministres, des walis, l'équivalent des préfets en Algérie, des PDG de grandes entreprises algériennes, en tout plusieurs dizaines de dossiers sont déjà en train d'être examinés par la justice, pour des faits de corruption, de blanchiment d'argent notamment. Certains Algériens sont impatients, c'est le cas de Farouk ou de Hamdia.
Nous sommes contre le gang Bouteflika, Selal et tous les autres de la bande. Nous voulons qu'ils rendent des comptes. Ils nous ont volés, nous ont ruinés, ils ont trahi le pays et la nation. Ils nous ont torturés. Nous demandons la liberté de la justice, la liberté de la presse. Nos enfants se noient en mer. Nous voulons nous assurer que ces gens perdent leur poste et rendent des comptes.
Je suis venue voir ça de mes propres yeux. Je suis tellement contente de voir ça. Notre rêve s'est finalement réalisé. Ce sont des voleurs. Ils ont détruit notre pays.
La présidentielle qui avait été fixée au 4 juillet a été repoussée sine die. Le chef de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a beau affirmer que la priorité était d'accélérer le processus électoral, de parvenir à un consensus par le dialogue, un dialogue qu'il veut national. Les Algériens, eux, s'impatientent et beaucoup craignent, comme Anouchka ou Sami, une confiscation du pouvoir par les militaires.
Cette énième fois, c'est la énième marche qu'on fait. C'est simplement pour dire à ce système corrompu de dégager, car on en a marre, que ce soit Édouard et le peuple en général, on en a marre de ce système corrompu. Il faut qu'il dégage.
Nous ne voulons pas parler avec eux, raconte Sami, ce manifestant. Ils doivent simplement partir. Nous voulons des règles du jeu civiles. Les manifestants réclament un renouvellement de la classe politique au pouvoir depuis l'indépendance de 1962. Ils demandent aussi à ce que la France lâche son emprise sur l'Algérie pour pouvoir décider eux-mêmes de leur propre avenir. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous écrire à français@dw.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Droits et Libertés, le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel.